Essai de Cristiano Dominici, c'est un génie!
Essai! Pas vrai de pas vrai! Deux fois ça, c'est pas vrai!
Chut! Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but!
Et troisième
et but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute!
Et oui, ménage un record.
Et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin.
Ah mes amis, ils sont bien là, ils sont tous présents, les plus moches, les plus vilains d'Evreux. Autour du micro et pour parler de sport, c'est le café du sport, la tournée du patron. Et on est presque à l'heure, on est presque pas à l'arrache. Et ça va bien se passer. Et ouais. Faire de la radio, c'est un peu comme un club, hein. C'est un club de sport, c'est un vrai projet collectif. On est arrivé il y a presque 4 ans maintenant à l'antenne, et puis au fur et à mesure, le recrutement à coup de... C'est pas le mercato, hein, c'est pas les sous des Qataris, hein. On vient pas à grands coups de millions. Hein. Une bière de temps en temps, une quille de rouge, c'est ça le café des sports. Le plaisir de se retrouver, de vous faire partager... notre passion, un peu comme le slogan, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. C'est ça qu'ils disent, hein, je crois, les gens. Ils sont là. Et ouais, le professeur, pas d'adieu, il est plus coriace qu'un Karabatic devant un procureur. Et oui, Tiber est de retour.
Bonsoir à vous.
Il a toujours le swing, le cheveu roux, la douceur de cœur. C'est notre Astérix à nous, Fred Astaire. Nous gratifiera une nouvelle fois d'une chronique de chez nos amis Grand Breton.
Bonsoir.
Il avait manqué un membre honoraire qui est devenu membre actif de la Dream Team. Il n'aime pas spécialement le sport, quoique, et pourtant, il a tant à dire. Saluez-le, les amis. Yo-Yo Man, le comeback.
Si, j'aime le sport.
Ah, bah moi,
oui,
je sais pas,
hein, toujours.
Tu te débrouilleras avec
lui. Je suis pas vraiment au fait de l'actualité sportive, mais j'aime le sport.
On aime tous le sport.
Je suis un peu un intrus, là, mais bon.
Ah, c'est ton tour, hein. Il délaisse la complexité de la pastèque pour une émission simple, directe et chaleureuse.
Non, je suis pas d'accord. Je venais à le dire.
Tu t'es trompé d'émission, là.
Pardon, excusez-moi.
Comme un peu comme lui, le cadet des Couvésiens nous surveille de sa culture tout terrain. Le Couvésien.
Bravo.
Bonjour.
Bonsoir à tous. Bonsoir, je vois que t'as mis un joli tweet vert. Je te remercie de cet accueil chaleureux.
Alors, c'était comment la première fois?
À la fois tendu, rigolo, avec des opinions très divergentes.
Mais, la complexitude.
Voilà, la complexitude. Mais bon, moi, ça m'a fait rire. J'ai pris du plaisir, l'improvisation, mais bon, voilà.
Un petit message quand même pour Dom. Pour le chamboulerien qui va peut-être revenir, on l'espère.
Qui rechamboulera tout peut-être à l'avenir. Nous, on va pas l'oublier, le Raoul... qui, voici 2 ans, nous avait demandé une mensuelle pour une question de...
Il est où ?
Pour une question de disponibilité, parce que c'était plus facile de venir le vendredi que le mardi, rappelez-vous. À la base, le Café des Sports, c'était une émission tous les mardis midi.
Je crois qu'il est parti faire un foot, non ?
Ouais, et la piscine, en fait. Mais pas une piscine où il doit faire à peu près beau, parce que c'est à Aix-en-Provence.
Et il a les moyens, il est snob, ce mec.
Ouais. Et puis, il est là. Fidèle au poste. Ah, il est le premier à être arrivé à mes côtés. Ah, ça m'a filé un sacré coup de main. Hein. Bon, il a appris à pousser les boutons depuis.
Idée fixe.
aux manettes, Gonzalo.
Hey, ça va.
Toujours pas de rap dans sa sacoche. Mais toujours une besace bien pleine, ma foi.
De bonne foi.
Et puis évidemment, hein, le dernier... excusez ce soir, Damienski, il n'y a pas de NBA, donc il est pardonné. Et puis voilà. Et puis, avec plaisir, on parlera évidemment du hand, on parlera rugby, on parlera triche, cyclisme, On parlera foot anglais. On parlera de tout ça au cours de ce Café des Sports, animé musicalement comme il se doit. Juste, on vous invite. Hein. On sera après au concert à l'abordage. Ce soir, ça va funker.
On va tous être des sols.
On va bouger les fesses.
Ce soir, c'est soirée popotin. C'est Lee Field qui passe avec en première partie un club local.
Un club local, c'est pas mal.
Il joue à domicile. Hein.
Ouais, il joue à domicile, c'est pour ça. Un groupe local du coin du cru.
Curtis Johnson Band. Et Curtis Johnson, c'est son vrai nom.
Ouais, il n'y a pas de triche. Ça sera.
Avec un sportif dedans. Hein. Un ancien basketteur, on a joué ensemble. Ouais, alors,
10 jambes de bois. 10 jambes de fraises.
Donc voilà, ça sera à partir de 20h30, 21h du côté de l'abordage club.
Non.
Le grand abordage. Ouh là là. Et puis quelque chose me dit pour faire un.
Juste, pardon.
Vas-y.
Lee Fields, ça remplit demain le Trabendo, c'est complet. Pour qu'on se donne un peu une idée de qui est le monsieur.
Voilà, c'est.
Son dernier concert à Nancy.
Contrairement à un certain.
Excuse-moi, Yoyoman.
Et il a une motion contre toi. Oui, Couvezien.
Vas-y, Couvezien. Non,
continue.
Donc, son dernier concert à Nancy, donc sur Arte Live Web, qui est un fabuleux concert, je vous le conseille aussi. Ça peut mettre en bouche pendant l'apéro avant de se rendre à l'abordage.
Allez, deux, trois dernières infos avant de partir justement en musique. Pour finir par rapport au concert, ça faisait un parallèle avec la radio Principe Actif que vous pouvez écouter sur le 102.4 FM. Autour d'Evreux, puis sinon sur principeactif.net. N'hésitez pas en même temps à venir chatter avec nous sur le site de la radio, poser vos questions.
Il
y a déjà eu des messages, la meilleure blague de ce soir, on y reviendra tout à l'heure, hein. Mais elle est très très bonne. Et puis ça permet d'enchaîner toujours avec la radio. Pour ceux qui aiment le funk, peut-être qu'il y en a qui écoutent en ce moment et qui auront un concert tout à l'heure, mais il y a l'excellente émission le mercredi soir. Soul Connection qui est pile poil dans cette verve là et quelque chose me dit que l'animateur star de cette émission qui est échangé avec HDR sera dans les murs de l'abordage. Et puis bah, Gonzalo, tout de suite tu vas nous délivrer ton premier choix.
C'est ça.
Côte de Beaune, premier choix.
Exactement, premier cru.
Parfait. I'm not afraid to die. Et c'était pas mal ça, ça m'a bien plu. Je sais pas ce que c'était, mais c'était bien.
Colorama, et je pense que le titre est adéquat, c'est Winner.
Alors, y en a,
c'est un peu pour nous, quoi.
Il y en a plein autour de la table. Hein. Là, il n'y a pas de danger. Hein.
Oui, chef. Il faudrait que tu branches. Il faudrait que tu branches.
On va, recommencer.
Voilà.
Voilà. C'est mieux là, non ?
Vas-y.
Allez, on recommence. 1, 2, rabat ta queue.
Vous-même, vous avez été footballeur ?
J'étais à l'honneur. Et croyez-moi qu'à l'époque, j'hésitais pas à monter au filet. Enfin, maintenant, je n'ai plus l'âge. Je n'ai plus l'âge.
Eh ben oui, c'est le moment. Hein. On a changé de visuel hein, pour cette. On va changer le nom de jingle, mais il est toujours. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu.
Un jingle qui s'appelle le Galaude.
Le Galaude. Célèbre handballeur.
Tout à fait. Eh ben justement, on va parler de handball. On va commencer en local et puis on va élargir notre champ d'action. Peut-être la France, puis l'Europe. Puis on s'arrêtera là parce que le hand, ça s'arrête en Europe quasiment.
Souvent, oui.
Il y a bien des Brésiliens qui ont essayé de jouer.
Sauf en filles.
Ah.
Sauf en filles. En Asie. En Asie, Corée du Sud, Amérique du Sud, Brésil. Garçon, il y aurait éventuellement l'Argentine qui tire un peu son épingle du jeu et quelques pays d'Afrique du Nord.
Afrique
Tunisie,
du Nord.
Voilà. Algérie.
Ils sont pas en prison.
Eux. Alors, on va parler du SMV en local. Or. On pourrait commencer plus proche, on pourrait parler de Saint-Sébastien Andes rapidement, club en pré-national qui va jouer la montée, qui a perdu un match important un peu déjà.
Ils ont perdu un match important, ils ont aussi battu des concurrents directs à la montée.
Chez eux, notamment quand ? En ouverture.
Voilà, en ouverture, rien de dramatique, une défaite somme toute honorable et ils sont donc à une victoire simplement de la première place. Ça va se jouer entre 4 ou 5 équipes. Donc,
Il y a deux montées cette année, on précise, en N3. C'est...
Voilà, donc un faux pas aussitôt dans la saison, oui, il ne va pas falloir non plus traîner parce que devant, ça va cravacher dur.
Voilà, donc je crois que le prochain match contre le Hand de le 76 de Rouen, le club de Rouen.
Dans 3 semaines, dans me semble-t-il.
Dans le 10 novembre, ouais, peut-être, ça fait le 10 novembre. Non, le 17 novembre, pardon.
Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui fait 3 semaines.
Voilà, ah ben voilà, exactement.
À peu près.
Le professeur, te mesure pas au professeur. Ouais.
Allez, on enchaîne avec le SMV. Ah, c'était le bordel et c'était la cata avant. Il y a un mois, on en est où ?
Il y a un mois, on était à 3 défaites. Et là, on est à 4 victoires, 3 défaites. Donc, si on fait bien le calcul, ça fait 4 victoires depuis la dernière émission. 4 Ouh victoires de suite.
Ouais, mais ils ont joué des tocards.
Ils n'ont pas joué que des tocards. Ils n'ont pas joué les plus
Brandon,
grosses équipes.
T'as parié, Brandon ?
Ah, bah ouais.
C'est vilain ! C'est vilain. C'est vilain ce que tu vas te faire, Couvazien.
Donc, 4 victoires avec, sur les 4 matchs, plus de 30 buts de marqués. 35, 36, 31, 36. Donc, c'est quand même une grosse perf au niveau...
Ça fait que 15 paniers.
Ça fait que 15 paniers. Oui, alors sinon, par contre, on parlait du hand. Hein, avec le gardien, tout ça. C'est,
d'accord.
Voilà, ils sont 7... Donc là, ils sont 6e ex aequo avec des matchs importants à venir. Là, j'ai noté qu'ils jouaient sur les 5 prochains matchs. Ils jouent 2 équipes qui sont à égalité avec eux. Ils vont jouer Nîmes, qui descend de LNH, de première division. Donc, je pense que fin décembre, on en saura un peu plus sur les objectifs. Le premier objectif restant tout de même, je pense, le maintien.
Faut être réaliste.
Enfin, ils ont quand même mis 2 piles à Massy, à Semur-en-Auxois. Semur-en-Auxois, ils avaient perdu la dernière là-bas. Et là, ils ont mis une pile de 12 ou 14 buts. Hein.
Ouais. Et là, apparemment, les échos que j'en ai eu, puisque j'ai pas vu les matchs, on a pu le voir, gros match en attaque. Et puis une défense qui s'est un petit peu retrouvée. Un gardien aussi qui s'est retrouvé. On avait parlé de ses petits soucis de santé la dernière fois. Donc, de toute façon, 4 victoires de suite, c'est pas 4 victoires volées. Et reste à savoir, demain déjà, contre Istres, à égalité de points, s'ils enchaînent ou pas.
Si on passe au national, en restant un peu local, hier, je regardais les spécialistes Hand sur Canal, et l'entraîneur de Chambéry demandait de façon un peu express à Timothée Nguessan de retrouver un peu la forme, parce qu'apparemment, il est un peu dans le creux, là.
Il est dans le creux. Alors, physiquement, il est dans le creux.
On rappelle, il avait une longue blessure. Hein.
Longue blessure l'an dernier, il n'a pas joué du tout. Il s'est entretenu physiquement, mais ils ont aussi beaucoup tiré sur la corde en début de saison, puisqu'en début de saison, il a énormément joué à un niveau qu'il ne connaissait pas forcément. Il a quand même découvert aussi la Ligue des Champions. Il a joué à la place de Bikanić qui était blessé. Donc, physiquement, faut aussi apprendre à jouer à ce niveau-là. Hein.
On rappelle, il a que 19 ans, hein, le jeune homme. Donc,
il joue à Chambéry, donc deux ou troisième club français.
Voilà. Donc, et quand on joue la Ligue des Champions, c'est pas la départementale 3. Et les impacts, la récupération, les voyages, c'est des choses qui s'apprennent aussi. La récupération, ça vient pas comme ça. Donc, c'est le haut niveau. Voilà.
Allez, on enchaîne. Il y a un mois, on découvrait, ça sortait deux, trois jours avant l'histoire du hand, des gros sous ou des sous mal placés. Pas comme les tirs, qui sont en général bien placés. On en est où de l'histoire? Et Ayek, Karabatic, Las, ou on va dire, comment ça s'appelle, le terme judiciaire précis, parce que moi et les avocats, c'est pas trop mon truc. Hein.
Ils étaient en contrôle judiciaire qui a été levé hier, je crois.
Absolument. Donc,
ça leur permet de se réentraîner et de rejouer globalement.
Alors, le club veut.
Si le club le veut bien. Dans un premier temps, ça leur permet de reprendre contact avec le club. Karabatic, Nicolas et son frère ont pu assister au match hier soir de championnat. Maintenant, un autre problème se pose, c'est est-ce qu'ils auront le droit de s'entraîner ou pas.
Est-ce que Kanaïe voudra d'eux ou
pour
pas?
Pour Gagic, ça a été clair. Kanaïe a dit non.
Alors, pour Gagic, c'est non. Pour les deux Karabatic, pour l'instant, pas de réponse. Il reste le gardien proche et Issam Tej, le pivot. Après, je ne veux pas augurer des réponses de Kanaïe. Maintenant, s'il refuse pour un joueur, je ne suis pas certain qu'il accepte pour les autres qui s'appellent Karabatic ou pas de venir s'entraîner avec l'équipe professionnelle.
Pardon, on va revenir sur cette histoire de gens qui ont parié contre leur club, mais au final, il n'y a rien contre Nicolas Karabatic. C'est le seul, a priori, qui n'aurait pas mis un Fafio dans l'affaire, puisque son frère a donné de l'argent à sa compagne. Mais Nicolas Karabatic, il n'y a rien.
A priori, Nicolas Karabatic n'a absolument
n'a pas joué.
Surtout,
il n'a pas joué, il n'a pas parié, il n'était même pas du déplacement.
Alors, il faut savoir que du déplacement, il n'y avait ni Nicolas Karabatic, ni Luka Karabatic. Il y avait sur les joueurs qui était en contrôle judiciaire, le gardien, Prost, Tej et Gaïc. Bon, Gaïc a répondu que si on le soupçonnait d'avoir sous-joué ce match-là, il a montré ses feuilles de stats. Je crois que c'était un truc du style 11 buts sur 13 shoots.
Et 6 pour 8 pour Tej.
Voilà, ce qui n'est pas trop mal pour un joueur de haut niveau. Nicolas Karabatic ne jouait pas.
Cela dit, il met combien en première mi-temps? Que le nœud du problème, il est là.
Le nœud du problème, c'est la première mi-temps. Maintenant, si je peux me permettre, sur le côté triche au niveau du match, si jamais triche il y a eu, ayant joué au handball, je ne vois qu'un joueur sur un terrain de hand pouvant influencer seul.
Le gardien.
C'est le gardien de but.
Fred Astaire.
C'est le gardien de but. Même un ou deux joueurs.
Ça fait un max de pognon.
Même un ou deux joueurs sur un terrain, c'est...
Angerville FC contre Manu, il a gagné.
Et ce soir, à l'abordage, c'est Fred Astaire qui régale. Allez, c'est bon.
Donc pour toi, ça n'existe pas. Hormis le gardien, ça n'existe pas.
Hormis le gardien, je ne vois pas comment un ou deux joueurs de champ peuvent influencer à eux seuls un match de handball. Non, je ne le vois pas.
Cesson qui était... juste pour continuer là-dessus, Cesson qui était vraiment pas bien l'année dernière...
C'est son jouer son maintien.
Et jouer son maintien, pour l'instant, ils sont milieu de tableau. Hein. Ils ont déjà gagné 3 matchs.
Pour l'instant, ils sont milieu de tableau.
Donc, en fait, Montpellier les a relancés.
Voilà.
Cela dit, au niveau de l'éthique, Fred Astaire, Yuyeman et Couvezien, vous pensez quoi du fait de parier contre vos copains? C'est ça le problème, contre votre employeur.
Je comprends pas la démarche, quoi. Pour se faire quoi, ils ont fait quoi, 10 000 euros, 20 000 euros
quand on gagne 1 million d'euros l'année?
Ouais, après, même pas au niveau pognon, au niveau, tu parles d'éthique, moi je trouve ça bizarre déjà de parier.
Ouais. Le problème, c'est le pari, quoi. C'est
un petit peu qu'on leur parle de parier, qui parie sur un autre sport, ok, mais qui parie sur leur propre sport et leur propre club, déjà, ils ne devraient pas avoir le droit.
Couvésien ?
Tout simplement.
Couvésien ?
Oui.
Le fait de parier contre les copains ?
Bah, c'est pas bien. Vilain ?
Non, mais.
Je pense que c'est l'analyse la plus fine de la soirée.
N'est-ce pas?
C'est pas bien.
Mais bon. Non, mais ça soulève, c'est vrai, plein de questions. Déjà aussi, bon, l'attachement au club, une identité, alors qu'il semblerait qu'à Montpellier, vraiment, il y a une vie autour du hand. Si j'ai bien écouté les informations ce matin, il y a un certain nombre de supporters qui sont allés voir Karbatic, qui était venu malgré tout dans les tribunes avec ses deux avocats. Hein, c'est bien ça, entouré de ses deux avocats. Ça fait un peu garde du corps, d'ailleurs. Et malgré tout, enfin, les supporters sont venus le voir. Alors après, il ne faudrait pas qu'il y ait, entre guillemets, une absolution hâtive de la part des supporters. Il ne faudrait pas que l'opinion publique l'emporte. Voilà.
J'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça.
Non, moi je pense tout simplement que l'enquête va continuer.
Le club n'a pas les moyens d'attendre.
Le club n'a pas les moyens d'attendre.
Le club a regagné déjà.
Le club a gagné.
La semaine dernière, là, ils ont été faire match nul à Dunkerque.
La Champions League, c'est mort, maintenant c'est le maintien.
Je pense très sincèrement que Montpellier a une image énormément entachée par cette affaire et que le président, comme Canaillé, l'entraîneur, prendront eux-mêmes les décisions sportives par rapport à ce qui s'est passé. Quel que soit.
En gros, le massicot, on coupe.
Je pense.
Alors vas-y. Vas-y, pour toi, c'est tous les joueurs concernés
je pense que
à la lourde.
Je pense que tous les joueurs concernés ne reporteront pas le maillot de Montpellier.
Cette saison, où ils finiront leur contrat de l'année, au moins, ou c'est
je pense
irrémédiable et c'est net tout de suite.
Moi, je pense que ce sera irrémédiable. Maintenant, je ne suis pas dans leur tête. Je pense, pour avoir entendu un peu Canaillé parler, c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à l'amour du maillot,
qui a été blessé, hein.
Qui est lui-même
cocu, hein.
Qui lui-même est blessé, qui a été mis en cause au départ. Donc, je pense que lui, il ne pardonnera pas à ses joueurs, non seulement d'avoir parié contre son club, donc quelque part contre lui aussi. Puisque lui, c'est l'entraîneur du club, contre l'employeur. Et moi, je pense et j'espère que ces joueurs ne porteront plus le maillot de Montpellier.
Juste un petit rappel, hein, le club s'appelle Montpellier Agglomération Hérault. C'est-à-dire que l'agglomération et le département financent très, très largement, hein, parce que c'est un produit d'appel pour la région. Et c'est difficile quand même d'aller les voir en mai en disant « Bon, alors, pour le budget supplémentaire de l'année prochaine, il faut tant. Même si on aime son sport, les gens de l'agglomération, quand ils voient les impôts locaux, la taxe foncière, ça doit faire mal. Et c'est curieux parce que l'attachement dont on parlait des gens de Montpellier, c'est un peu pareil à celui des Toulousains avec le rugby. Et ce serait un. Enfin, je sais pas, on y. Après, on imagine mal du Sautoir jouer contre son club. Alors. Il y avait une très bonne interview de Costantini.
Où il a quand même joué contre Biarritz. On rappelle, il a quand même commencé le rugby à Biarritz, hein, avant de jouer au Stade Toulousain.
Oui, non, mais certes. Sauf que c'est devenu une icône. Il était étudiant à Toulousain. Il est ingénieur aéronautique. Il y avait une interview très très bien de Costantini qui disait « Oh là là, on disait que Karabatic était un génie du hand et un mec très intelligent encore plus que ça. » Il dit « C'est un petit con. » C'est un petit con, il a fait une connerie de gamin et c'est un petit con. Sauf que personne ne lui avait dit avant de stop.
On parlera de petit con tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il y a encore des meilleurs exemples avec les footballeurs. Et les bleus.
Et des cyclistes aussi, hein. Des gros cons aussi.
Ouais, ou c'est pas au même niveau.
Juste pour en revenir à Montpellier, est-ce que vous pensez que le club lui-même, la structure, va être viable après cette affaire? Enfin, est-ce que le club va survivre?
Je pense que s'il y a coupe, ouais. Sinon.
Je pense que si elle fait table rase de tout ça, c'est-à-dire si elle dégage ces joueurs-là, oui.
Qu'elle montre à ses partenaires fidèles qu'ils ne sont responsables de rien et que ces joueurs-là ont terni l'image du club et qu'ils ne veulent pas être associés à ça.
Je pense que
qu'il n'y a pas de caution, quoi. Enfin, qu'il y a vraiment.
Je pense que l'attitude de Canaillé est à rapprocher avec celle d'Antonetti et Dré aussi à Rennes.
Tout à fait.
Ces histoires sont pas pareilles parce qu'il y en a une qui est judiciaire. Et l'autre, c'est des gamins qui sortent en boîte la veille d'un match international, ce qui n'est pas bien malin. Et Antonetti, a priori, est parti pour ne plus les faire jouer au Stade Rennais. Mvila et l'autre...
Mavinga.
Alors, on va...
Alors qu'il est dans la mouise au championnat, il a un effectif blessé. Apparemment, à Rennes, il ne veut pas les faire jouer.
Et moi, je trouve que c'est hyper courageux de sa part et que c'est un exemple à suivre pour le milieu du foot. On leur tape suffisamment dessus régulièrement.
Je suis bien d'accord.
On rappelle les faits. L'équipe de France, Espoir, fait match nul en France contre la Norvège. Ils partent une semaine après.
Non, c'est pas ça. Ils gagnent 1-0 en Norvège.
Non, ils font match nul ou ils gagnent en France.
Ils ont gagné 1-0, me semble-t-il, en France. Et ils jouent en Norvège la semaine suivante, me semble-t-il.
Et la veille du match, un gros nombre de joueurs est sorti en boîte de nuit. Ils n'ont pas mis 4 pieds devant l'autre sur le terrain. Et ils en ont pris 5 dans la musette, de mémoire.
5-2.
Bon, ils en ont 5-3.
5-3.
Et du coup, ils sont éliminés de l'Euro. Ce qui fait un peu désordre pour l'équipe de France Espoir de même pas être un Euro. Je crois que c'est une première.
Et pour l'ami Mvila, quand même, il sortait d'une suspension avec les A, et là, il s'en prend une avec les B, quand même.
Ouais. Comme quoi, il n'y a pas de fumée sans feu.
Je pense qu'Antonetti, j'ai vu une conférence de presse, a tout à fait bien résumé la situation d'un joueur comme Yann Mvila. Il a dit, quand on voit quelqu'un qui, il y a un an, était pressenti pour aller jouer au FC Barcelone et qui joue ce week-end en équipe réserve...
À Vitré.
Tout est dit. Voilà.
Bon, après... C'est quand même assez différent. Enfin,
je parlais d'attitude de.
Oui. Mais là, c'est des. Je sais pas quel âge ils ont, ces joueurs-là. C'est des gamins, des sales gosses.
Ça, ils ont 20 ans.
Qui ont arrêté. Ils sont complètement déresponsabilisés. Et ça, c'est le foot. Hein.
Et Rennes, qui a un gros centre de formation, vient de prendre une grande claque dans sa gueule, je crois, et qu'ils ont vraiment envie de remettre l'éthique au cœur du projet du club.
Je voulais m'adresser au professeur. C'est vrai qu'il est question de remettre des cours de morale dans l'éducation nationale. Est-ce que dans le sport pro, il faut envisager la même chose ?
Ouais, je pense que dans le sport pro, il faut déjà mettre des cours tout court, que ce soit de morale ou d'autres choses.
Voilà, oui. Alors ça.
Je pense que je reste convaincu que le rôle d'un club professionnel qui engage un jeune de 12, 13, 14, 15, 16 ans, c'est d'en faire un sportif accompli, oui, puisque forcément, eux vont en retirer des bénéfices, mais c'est aussi d'en faire un citoyen averti et un homme averti. Et je pense que là-dessus, les clubs ont un rôle à jouer et que ce rôle-là, ils ne le jouent pas toujours.
Je crois qu'on va clore cette rubrique hand sur deux interventions de nos internautes. La première, vraiment très ciblé, et là je pense qu'il n'y a que Tiber qui peut nous répondre. On nous demande si les frères Karabatic ont bien payé leur place pour assister au match.
Je ne sais pas, mais j'espère. J'espère. Alors si c'est monsieur Canaillé qui était à l'André, je pense qu'ils l'ont payé.
Papa Canaillé.
Je pense qu'ils l'ont payé. J'espère qu'ils l'ont payé.
Et l'autre question qui nous concerne un peu plus tous là, ou certains, c'est en fait il y a les compagnes des animateurs du Café des Sports qui parient et elles espèrent que des clauses particulières dans les engagements envers principe actif nous permettent et ne nous entraîneront pas vers des paris et avoir des problèmes.
Et moi j'ai une info et un scoop. Nous sommes écoutés à Danville. Parce que j'ai un message. Sortie en boîte le samedi, match le mercredi. 3 jours entre les deux, mais pas cool quand même. Alors bon... Ça vient de Damienski.
Jean-Marc Crédit. Je suis Jean-Marc Crédit. Allez, musique.
Oh, ça sonne de partout.
Ah là, c'est le standard est en folie. Allez, go, musique.
He's the father.
C'était quoi ça?
C'était Black Angels qui reprenait She's Not There, tube des Zombies. 60.
C'est qui ça?
68, 69. Les Zombies.
L'équipe groupe... de France Espoir de foot.
Un groupe anglais qui a eu un succès posthume.
Ah.
Voilà.
C'est réjouissant.
Ah, ça arrive.
Et posthume pour un zombie, c'est bien.
Effectivement.
Ah ouais, c'est pas faux.
D'après vous, quelles vont être les consignes pour la seconde période, puisque vous êtes réduit quand même à 14 depuis le début du match?
Ouais, mais là, les consignes, ça va être simple. Il va falloir rentrer avec des tripes énormes. On va pas parler de technico, tactique, on va les destroncher.
Bah voilà, on va les destroncher. Hein. Ah, Gonzalo, je crois que c'est à toi. Tu nous as préparé un petit quelque chose, un question-réponse, un truc dans le genre, je ne sais pas quoi, une surprise.
Voilà, moi, les dévoreurs de journaux postés à ce comptoir me comprendront. Il est rare de tomber sur un article qui fait du bien. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est rare. Et puis moi, cette semaine, j'ai lu un article qui m'a conforté dans mes certitudes, donc ça fait encore plus de bien. Et c'est presque une lapalissade pourtant. Sauf que du discours à la mise en pratique, c'est plus un cheveu, mais toi, les dreadlocks de Bob Marley. Alors, explication. Lundi, l'équipe, pardon, jeudi 25 octobre, le sujet basket. L'intervenant, Léo Westerman. Est-ce que vous connaissez Léo Westerman?
Ancien joueur de l'ASVEL.
Non, ça te dit rien, Léo?
Il dit vaguement quelque chose.
Non.
Donc, Léo Westerman, c'est un
international. Léo, il n'est pas français, lui.
C'est un international français, Westerman. Justement.
Ah,
de 19 ans, 1m98. Il a une ou deux sélections l'été dernier. Il a été coupé, remplacé par Chikambu, ce qui n'a pas été une franche réussite d'ailleurs. Enfin bon, ça c'est autre chose. Alors, voilà, je vais vous expliquer. L'interview, je vais vous lire ça. Question, journaliste. Léo Westerman, vous avez fini l'entraînement hier à 23h. Est-ce ça le secret de la réussite du Partizan? Effectivement, le garçon a quitté l'ASVEL pour aller jouer au Partizan de Belgrade. Réponse du gars. Ouais, ça doit être ça. On partage notre salle avec l'Étoile Rouge et on s'entraîne énormément. 6 heures minimum par jour. On n'a pas le choix car on est une équipe jeune. 6 heures d'entraînement? Sont-elles d'une intensité égale? Bah, c'est ça le plus impressionnant. Tout est fait à 100% des capacités. C'est éprouvant, mais on progresse beaucoup.
Ah bon?
Mais cela vous donne-t-il l'impression qu'on ne travaillerait pas suffisamment en France? Alors là, le mec, il est un peu dans la merde. Parce qu'il veut toujours aller en équipe hein, de France. Bah, je dirais pas ça. À l'INSEP, on travaillait beaucoup. Point. Et il se dit, je suis dans la merde. Il continue. À l'ASVEL aussi. Hein. À l'ASVEL aussi. Mais l'état d'esprit est différent. Chaque coach a sa méthode. Le mec, il se dédouane un peu. Bon, bah, Dusko Vujosevic est connu pour ça. Hein. Entraîner beaucoup.
Et au moins, un sportif qui est conscient de ce qu'il dit.
Ah non, mais vous allez voir qu'il est absolument conscient de ce qu'il dit. Des entraîneurs comme lui, il n'y en a pas 50. Le détail a une place primordiale. Ce matin, donc la veille, ils avaient fini à 23h et des brouettes. Le matin, donc a priori, c'est vers 10h15. On a passé 1h15 à faire du 5 contre 0 pour la mise en place. Déjà, c'est pas mal. Alors, le mec, il continue. Autre question du journaliste. Vous citez plus naturellement Spanoulis, Diamantidis que Wade ou Billups. La NBA ne vous attire pas. Le jeune Léo Westerman, qui visiblement, lui, est allé à l'école. Hein, répond. Je ne vais pas cacher, je trouve la NBA attrayante, mais pas pour poser mes fesses sur un banc. Ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours préféré, et c'est encore plus vrai maintenant.
Ah,
qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, quelqu'un qui aime le basket.
Bah oui.
Quelqu'un qui aime le sport.
Qui préfère le sport au spectacle, ça me paraît évident.
Fred Astaire.
Quelqu'un qui aime le sport, dit le professeur.
Quelqu'un qui a surtout envie de progresser à mes yeux.
Je crois qu'il y avait une mini polémique qui avait été lancée ici par quelqu'un qui n'est pas là, qui est à la piscine, qui trouvait qu'en France, et parfois d'ailleurs à Évreux, on ne travaillait pas assez. Dans les clubs locaux. Non?
Dans les clubs pro, notamment.
Par exemple.
Quelqu'un qui trouvait. On l'a éliminé aux élections précédentes, celui-là.
Non, enfin, moi je trouve ça intéressant quand
même. Mais justement, c'est peut-être le problème pour que les mecs s'entraînent plus, il faudrait qu'on les paye plus, peut-être.
Non mais moi je trouve ça intéressant qu'un type dise ça me fait plaisir. Alors après il y a toujours le côté ouais je suis parti à l'étranger et c'est vachement super de travailler alors que les mecs peut-être ne voulaient pas bosser. J'ai un souvenir marquant, c'était Trezeguet Henry qui avait du mal à bosser à Monaco avec Tigana et lorsqu'ils sont partis l'un à Turin l'autre à Milan, trouvais génial de vomir après les entraînements en disant « Ah, ici on bosse quoi,
mais
ici on bosse hein. ».
Mais peut-être quand le contexte et le climat et que tout le monde autour de toi va dans ce sens, ça te motive peut-être à le faire que de travailler pour soi donc, individuellement.
C'est un problème français, donc,
oui,
selon vous.
Bah, ou problème de culture peut-être, de l'effort.
J'ai un exemple frappant en volleyball. Une ancienne joueuse d'Evreux qui, encore, c'était pas la plus feignasse, hein. Travaillait bien, bossait quoi. Elle est partie à Cannes où elle racontait, je l'avais eu au téléphone, elle m'expliquait à Cannes, donc les entraînements sont très longs, avec beaucoup d'exigences. Et en fait, les relais sur le terrain sont la capitaine Victoria Rava, qui pareil est une chienne dans le côté chienne, c'est-à-dire qu'il y a un détail, une passe qui lui vient qui va pas, elle incendie l'autre, et puis il y a toujours une pression de l'excellence quoi. Elle me dit « Ouais, c'est ça, ça c'est génial. » Et j'avais en mémoire que des fois, elle trouvait l'entraîneur ibrossien un peu chiant parce qu'il rabâchait un peu souvent. Sauf que là, c'est à Cannes et c'est plus pareil.
Et que peut-être n'avait-elle pas le même statut à Cannes qu'elle avait à Évreux. Il y a ça aussi. Quand tu parles d'Henri et Trezeguet, quand ils sont à Monaco, en plus il fait chaud, il y a les casinos, les belles voitures, la mer. Et puis qu'ils en fassent beaucoup, moyennement beaucoup ou pas beaucoup... Arrivé à un moment, je pense que Trezeguet et Henri, ils se disaient, c'est pas grave, samedi on joue. T'arrives à la Juve, je pense que c'est pas la même philosophie.
T'arrives au Milan, tu joues pas.
Voilà.
Donc tu pars à Arsenal.
Voilà. Donc t'as intérêt à te bouger les fesses si tu veux jouer. Donc peut-être aussi que la motivation vient avec une sorte de confort qui s'installe dans certains clubs, français ou pas. Peut-être que ça se passe aussi pour des joueurs italiens en Italie et qui s'installent dans un confort qui fait qu'ils font moins d'efforts.
Ben, tu prends l'exemple d'Henri à Monaco, puis à Arsenal. C'était le même entraîneur.
Non.
C'était Wenger à Monaco.
Ouais, mais après, Wenger est parti et est resté Tigana. Est arrivé Tigana.
D'accord, mais Henri a commencé avec Wenger à Monaco.
Ouais, mais après, il a été remplacé
par... Il l'a retrouvé à Arsenal.
D'accord, mais il avait été remplacé par Tigana entre-temps.
Possible. Et un an ou deux.
Oui, c'est ça, mais j'ai 2-3 souvenirs dans l'équipe où ils trouvaient qu'il était méchant, Tigana, parce qu'il était un peu trop directif. Sauf qu'un an après, quand ils étaient en Italie, ils trouvaient ça génial, le dirigisme italien.
Même si je m'occupe que d'enfants à l'entraînement, je suis plutôt d'accord, par contre, par rapport à l'intensité des séances. Je pense que ça ne sert à rien de faire des entraînements de 3 heures si c'est pour les faire en jouant à 2 à l'heure. La réalité, réalité d'un match, c'est de jouer à 100%.
Quand tu parles du travail dans les pays de l'Est, au basket, c'est essentiellement le sport collectif. Quoi. C'est du travail collectif, c'est là-dessus qu'il incite. C'est pas 10 heures de musculation, voilà. C'est le collectif qui compte.
Ouais, mais il y a aussi beaucoup... je ne dirai pas le nom. J'ai discuté avec un entraîneur samedi dernier, c'était au Centre Omnisport, et je regardais la N3. Il y avait un grand intérieur hébreuicien qui balance un shoot à 3 points. J'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est parti comme un saucisson de morteau. Et l'entraîneur à côté de moi me dit, ah ouais, mais ici, on n'est pas dans les pays de l'Est. On fait pas bosser les grands à 3 points. C'est pas leur boulot. J'ai trouvé ça ridicule, quoi. Le basket, c'est un sport total.
Bien sûr. On va pouvoir jouer partout si on peut.
Ah, bien sûr.
Si on peut le faire.
Oui. Je comprends pas pourquoi en France on fait pas bosser les grands comme les petits, quoi. Enfin, alors les grands, pardon. Les plus de 2m10 ou les plus de 2m5 comme des meneurs de jeu et inversement, quoi. J'arrive pas à comprendre. Professeur.
Mais ça, c'est pour servir le collectif. Que
oui.
Tous les postes puissent se jouer à un moment donné à n'importe quel poste, ça renforce le côté collectif.
Oui, mais
les gens sont interchangeables.
Il faut avoir une technique individuelle quand même.
Ben oui, mais c'est dans un esprit collectif.
Mais après, je suis d'accord avec Yeoman. Et je comprends le point de vue de Gonzalo. Et je comprends encore plus le point de vue de l'entraîneur. Peut-être que le joueur en question, qui est un grand, c'est un joueur qui a été détecté sur le très tard et qu'il n'a pas encore l'ensemble des fondamentaux.
Non, je suis pas d'accord. Partizan Belgrade.
Oui.
Ligue des champions. Les mecs, ils ont dit moyenne d'âge de 24 ans. Ça veut dire qu'à 24 ans, l'entraîneur... Il y a des mecs de 20... Quand t'as une moyenne d'âge de 24 ans, c'est-à-dire que t'en as qui ont 17 et d'autres qui ont 28. Pour lui, l'entraîneur, tout le monde peut progresser de 28 à 18 ans.
Je suis d'accord, mais quand tu récupères des gamins à 18, 19 ans qui doivent être dans les équipes que t'as été voir, qui ont un an de basket, et ça arrive, c'est vrai que dans l'absolu, la priorité, c'est quand même de le former déjà un peu sur son poste, qu'il ait quelques notions et quelques repères. Et il faut aussi avoir ce retour. Et on n'a pas cette information. Quel vécu basket ? Par contre, si c'est un gamin qui fait 2m10, qui a 10 ans de basket et qui ne sait pas shooter, là, ça m'interpelle et ça m'inquiète.
C'est pour ça qu'il faut Fresh Sport. La DDR, détection à 12 ans. Et obligation de faire le sport de... que dit le professeur ?
Alors, je pense que... moi, j'ai bien écouté un peu tout le monde. Je suis assez d'accord avec Gonzalo. Notamment au niveau du basket, n'importe quel joueur doit être capable de shooter à 3 points. Après, la différence, c'est qu'un grand de 2m10, bah, il en prendra un ou deux dans la semaine, dans le match. Forcément, l'ailier, il va devoir le travailler plus. Maintenant, si c'est effectivement faire travailler son pivot sous le panier pendant une heure à l'entraînement, pendant que les arrières font du shoot à 3 points et que ça s'arrête là, je vois pas effectivement l'intérêt.
C'est ce qu'on fait quand on est vétéran.
Ah, là, quelqu'un de 2m10
chacun à sa place.
En même temps, je continue sur ce que tu viens de dire pour savoir ce qui se déroule, par exemple, avec Gary Florimont et Steve Oyufat, deux joueurs de la M Évreux, continuent d'être pris en atelier par Sylvain Granca, qui les fait bosser sur de la technique individuelle.
Sur des fondamentaux au poste.
Voilà, de l'atelier.
Dans le jeu, ils sont paumés. Hein.
Non, mais
on l'a encore vu la semaine dernière un peu, mais...
Ils progressent.
Mais c'est vrai.
Avec Gary Florimont, il ne mettait pas un pied devant l'autre il y a un an. On aurait cru qu'il aurait pu jouer en Pro B. Maintenant, c'est devenu un vrai joueur de Pro B.
Non, on est d'accord. Sur son jeu au poste.
Et bah, le travail individuel, en atelier.
Moi, j'ai une pensée pour la libéro volée.
Ouais.
C'est quand même le secteur le plus réduit possible, quoi. T'imagines, je sais pas s'il y a une prédestination entre guillemets, ou enfin t'as une joueuse,
de gravité bas,
c'est
la plus petite de l'équipe,
qui va développer des aptitudes uniquement par rapport à ce poste.
C'est comme une gardienne d'or, un gardien
au basket comme le meneur de jeu, c'est toujours le plus petit de l'équipe aussi, hein, c'est pareil. Hein, tu vois.
Mais à terme, je pense que il faudrait le contrôle du gars Raoul. Mais je pense que sur les grilles de salaire, à mon avis, c'est la même chose qu'un gardien de but de hand. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te stabilise le secteur arrière. Plus c'est propre, plus tu peux développer ton jeu. Et je pense que...
Après, c'est pas
un poste réduit. Hein, je pense
ma question n'était pas par rapport...
Le gardien de but en hand, il tire pas. Hein.
Ma question, mon intervention n'était pas par rapport à ce qu'apporte la joueuse. En l'occurrence, mais plutôt par rapport à ce qu'elle vit, elle. Alors après, on peut prendre aussi les deuxièmes lignes au rugby, le gardien de but, etc. C'est un moment.
Je pense que dans la formation d'un libéro, mais c'est comme la formation d'un deuxième ligne, je pense qu'il y a une formation générale de base, et puis arriver à un certain âge...
Quand tu coinces en taille.
Parce que
on te réoriente.
Ouais, mais au bout du compte, c'est la polyvalence et l'épanouissement du joueur, de la joueuse.
Je vais prendre un exemple pour Dynamo de Rouen.
Là, elle peut pas se matcher parce qu'elle est trop petite, mais comme au basket, tous les basketteurs se matchent pas, et ça les empêche pas de jouer.
Je pense que c'est une fausse vision que t'as du poste, parce que toi qui viens à mes côtés le samedi, finalement... Une libéro, ça touche plus de ballons qu'une centrale.
Ah oui.
Elle n'attaque pas.
Ouais.
Mais par contre, elle en touche plus qu'une centrale. Ouais. Qu'une pivot, quoi.
Ah, puis c'est honorable comme poste, je trouve.
Ah, mais on
la voit sur le
terrain. Hein.
Oui.
Je dis qu'il y a une sorte de spécialisation.
Mais je pense que ça.
Avec ses moyens, c'est normal.
C'est une OS.
Elle n'est pas là pour se matcher.
Je pense.
Je sais pas si c'est la bonne alluma, mais.
Je pense qu'après, c'est une question aussi d'ambition sportive. Soit tu joues. Attaquante réceptionnaise en deuxième ou troisième division, soit t'essayes de passer libéro en première division.
C'est exactement ça.
Au rugby, il y a eu le même cas. Il y a eu un cas au Dynamo de Rouen, un joueur qui est maintenant en équipe de Roumanie, qui joue en top 14 avec l'USAP, Marius Tinku. Quand il jouait à Rouen en troisième division ou en deuxième division, il voulait jouer 8. Donc il a joué 8.
Troisième
ligne centre. Et puis un jour, on lui a dit, si tu veux avoir plus de sous et donc grimper de division, il faut que tu changes de poste. Parce que pour jouer à ce poste-là, tu n'as pas assez de VMA, tu n'es pas assez grand, pas assez plaqueur, pas assez mobile. Par contre, si tu t'orientes vers le poste de talonneur, tu pourras peut-être jouer en première division. Et c'est ce qui lui arrive. Donc, le niveau... Les exigences et les ressources du joueur font que, en fonction du niveau où tu veux t'orienter, c'est vrai que Mais ça n'empêche qu'il savait courir, plaquer, passer, qu'il connaissait les règles. Il avait une formation de rugbyman de base. Et après, il a fallu qu'il acquiert la tenue en mêlée et le lancer en touche, qui sont spécifiques à son poste.
On peut revenir sur du exemple local. Hein. Tu prends Drake Reed. Si Drake Reed faisait 2m10, il ne serait pas en Europe, il ne serait pas en France. Et voilà. Le problème, c'est qu'il est 3, 4, 5. Et il fait 1,98, donc il est pas assez 3, il est que 4 d'ailleurs. Il fait 1,98 et il peut pas jouer plus haut, quoi.
Mais je reviens quand même.
Jérôme, tu penses quoi des porteurs de gourdes dans le cyclisme?
Non, mais moi je voulais revenir au début de la discussion, c'est quand même, j'encaisse des séances de travail qui me permettent d'être polyvalent, de jouer à télépostes jusqu'à un certain âge.
Alors, le début de la discussion était de j'encaisse des heures de travail, même en étant professionnel, même en étant joueur de Euroleague, pour progresser.
Bah, moi je dirais,
c'est normal, il est jeune.
Tout en étant professionnel.
Mais non, c'est là le problème. C'est là où tu fais une erreur.
Il y en a qui vivent sur leur acquis.
Tu fais une erreur, Fred Astaire. Ouais. En professionnel, tu ne travailles quasiment plus pour progresser individuellement. Tu ne fais que du collectif, que de la mise en place.
Et ben, c'est là qu'est l'erreur, je pense. C'est qu'il faut travailler les deux. C'est-à-dire que n'importe quel joueur professionnel, aussi fort soit-il, peut toujours progresser. On peut toujours progresser individuellement. Et si on progresse individuellement, à un moment, ça rejaillira sur le collectif. Je voulais juste revenir une seconde sur...
On ne peut pas dissocier les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Le petit débat sur est-ce qu'on peut être polyvalent sur un terrain, etc. Je parle de ce que je connais. Le handball... On demande à un ailier de rester à son point de corner. Maintenant, quand il s'entraîne, ça lui arrive aussi de shooter en poste de demi-centre. Parce que peut-être qu'à un moment donné...
C'est quoi demi-centre déjà ?
Demi-centre, c'est le poste de Nicolas Karabatic. Donc dans les tribunes au cinquième rang.
Et à la pédanque, le tireur, c'est le tireur.
Entre les deux arrières. Voilà. Après, par contre, c'est vrai que le gardien reste gardien. Et Didier Dinard a fait une grosse carrière en étant défenseur. C'est tout.
Alors, on va couper, juste pour finir là-dessus, je pense qu'avant tout, le rôle d'un entraîneur, c'est d'entretenir des points forts et de réduire des faiblesses. Et si on résumait à ça, je pense qu'on résumait à ça, c'est gagné.
Ça s'appelle le travail, résumé.
Allez, go, musique. C'est le morceau long, hein, là, je crois qu'on est parti pour un petit moment. Hein.
C'est celle-là.
5-6 minutes de musique.
Rice paddy before I step onto some goddamn mine. And we'll grab a Jeep and watch the fall of Saigon. Turn to politics and the fall of
C'était quoi ?
C'était Elliot Murphy et on attend Yu-Yu-Man qui nous dira tout à l'heure ce que c'était exactement comme titre.
Elliot Murphy comme la bière ?
C'est ça.
Ah cool.
En tout cas, c'était vachement bien.
Qu'est-ce que ça t'évoque, Fred Astaire ?
Une ville qui est à gauche de Manchester.
Alors, Elliot Murphy, c'était quoi, le titre ?
As the Fall of Saigon. Bien, oh. Bon choix, Gonzalo. Je crois que c'est un des meilleurs morceaux d'Elliot Murphy.
Et quel accent ! Eh ouais, oui, Liverpool FC, le grand Liverpool FC qui n'est pas bien en point. On va parler, mais c'est pas le seul club britannique populaire et connu qui est pas bien en point. Allez.
Oui, il y en a un autre, oui. Ça s'appelle Arsenal. Là, qui a vraiment passé une semaine un peu difficile, on va dire. Je crois que le plus dur. Je sais pas si c'est la défaite samedi contre Norwich, qui est un promu.
Ça existe, Norwich ?
Norwich ? Mais tu te rappelles pas de la pub Norwich Union avec Jean-Marie Prolier ? Avec la petite fille qui dit papa, je peux lécher la cuillère. Norwich,
papy.
Tant que c'est que la cuillère.
Assurance obsèque là. Donc voilà, Norwich, une ville qui est donc en haut à droite de Londres et qui est promue, les Canaries. Voilà.
Culturel comme émission,
n'est-ce pas?
Ouais.
Hein, on essaye un peu. C'est pour ça que parfois je fais un peu de graveleux. Faut pas que de la culture quand même.
C'est leur première victoire, ils sont promus, ils ont enchaîné les défaites et les nuls, et là ils gagnent contre Arsenal, dont, de l'aveu même de leur entraîneur, la prestation a été abjecte. Il a employé le mot abject. Voilà, et puis après...
Ça passe pas dans le Scrabble, il y a trop de lettres.
Ouais, ça fait...
Fais pas ton sportif basique, quoi. Fais pas ton rugbyman.
Voilà. Bon, là, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et puis après, ils se sont pris 2-0 en Ligue des Champions contre Schalke 04. C'est du grand n'importe quoi. Et c'était bien parti. Et puis voilà. Pendant ce temps-là, Chelsea caracole en tête.
Est-ce qu'il y a un avenir dans ce club ?
Alors, très bonne question. Parce que ça fait quelques années maintenant que Wenger se dédouane, entre guillemets, en disant que bah, l'avenir, il l'a créé. Bah, alors, ok, à long terme, en investissant dans un nouveau stade et qu'on paye, enfin que Arsenal paye le stade, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de liquidité, enfin ils n'ont pas assez d'argent pour retenir des joueurs comme Van Persie, comme Ron Nasri, Van de Barra. Sauf que, bah voilà, ouais, ça commence à être compliqué, quoi, à ce niveau-là. Ils ont un beau stade qui n'est pas beau, c'est une espèce de stade moderne, tout ça, bon. Il manque quelque chose là, ils sont en train de perdre pied.
Alors ça permet d'enchaîner sur la Ligue des Champions un petit peu. Ça a quand même été, pour ceux qui suivent ça un peu, une journée avec pas mal de résultats surprises. Alors les Madrilènes chers à Gonzalo qui perdent contre Dortmund.
Non, faut laisser Dortmund, c'est une grosse équipe, attention.
Oui, non,
là, par contre, c'est un stade magnifique.
Hein. Merde, j'aurais dû parier ce jour-là.
Ouais. Attends, Dortmund, si on suit un peu la Bundesliga, c'est... voilà, si on parle des stades...
C'est un des stades où il y a le plus d'ambiance en ce moment en Europe.
Ouais, tout à fait.
Stade debout, enfin une grande partie...
Stade debout, tout à fait. Et il n'y a pas de mort, il n'y a pas de catastrophe.
Autre résultat...
Et ils boivent de la bière.
Autre résultat surprenant, et puis je suis content, l'Ajax qui renaît.
Très bien.
Alors en plus, ça te ravise parce que c'est une victoire contre Manchester City. Mais,
encore mieux.
Je vais faire mon Fred Astaire. On ne dit pas l'Ajax.
On dit l'Ajax.
On dit Ajax. Il n'y a pas de L apostrophe.
Donc Ajax, l'Ajax d'Amsterdam. On parlait tout à l'heure de basket total. Ça a quand même été l'école du foot et du foot total. J'étais pas né, hein, mais vous, oui.
Tout à fait. Oui, bah, moi, quand j'ai commencé à faire du foot, j'ai vite arrêté. C'était l'Ajax. Non, Ajax, et c'était la Hollande en particulier, quoi, qui me donnait envie, quoi.
C'était Johan Cruyff, ça ?
Johan Cruyff.
Cruyff,
exactement.
J'ai une petite question pour toi, Fred Astaire.
Oui. Moi,
je me pose toujours la question avec Arsenal. Ils forment beaucoup de jeunes, qui deviennent souvent très bons, ou ils recrutent des jeunes qui sont pas mal et qui deviennent très bons. Ils les revendent, mais derrière, ça ne suit pas. Donc, l'argent récolté avec tout ça, je pense à Van Persie, je pense à Nasri, je pense à Fabregas,
oui.
Je pense à Alexandre Song, qui est parti à Barcelone,
ouais.
Me semble-t-il.
Yeb aussi.
Voilà, ça fait quand même pas mal de joueurs qui sont partis, et pas pour 500 000 euros. Et donc, il y a, j'ai l'impression, pas beaucoup de réinvestissement derrière. Est-ce que c'est un choix d'Arsène Wenger ou, comme tu le disais, cet argent sert aussi à éponger un peu le stade ?
Cet argent sert à éponger le stade. Ça, c'est vraiment... C'était clairement annoncé qu'il n'y aurait pas de... voilà, c'est un club dont les finances sont plus ou moins saines par rapport à d'autres grosses écuries, on est d'accord, comme United, comme même Liverpool ou Man City. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais... en dette. Donc ça, c'était annoncé. Mais le problème, c'est que bah, le stade, il faut encore 10, ouais, peut-être une dizaine d'années pour finir de payer. Et ils ne peuvent pas réinvestir dans des joueurs. Donc Arsenal aussi une politique pas trop de formation. C'est vrai que Wenger a été critiqué pour avoir été chercher des jeunes un peu partout, comme on en parlait tout à l'heure, hein, de 13, 14 ans, 15 ans. Il y a des recruteurs en Afrique qui sont vraiment payés rien que pour ça. Donc c'est un petit peu ambivalent et je pense que Arsenal, là, ils vont encore traverser au moins 5-6 ans sans aucun silverware, comme on dit, sans aucun trophée. Voilà. Pour en revenir à Norwich, j'ai été... vous parliez du naming des stades.
lundi dernier, je crois.
Ouais. Pour le salle de sport à Évreux, ça s'appelait la cantonade, je crois.
Non, la poubelle, non, bah, le, poubelle arena.
La remarque de d'Estrosi là sur le nom du futur stade de Nice.
Ah, l'Allianz Arena.
Ça, c'était pas mal. Donc le naming, c'est un truc qui se fait beaucoup en Angleterre. Et je pensais à Norwich. Le naming se fait aussi pour les donc c'est la Barclays Card Premiership, c'est la Coca-Cola Championship. Enfin tout est voilà pour quelques années. Et on parlait de Norwich, qui est devenu... enfin, Norwich Union, tu veux lécher la cuillère papy, je peux lécher la cuillère papy. C'est devenu Aviva. Et j'ai vu que la première ligue de rugby, qui était la Guinness Premiership, là, ça ne me dérangeait pas trop, est devenue l'Aviva Premiership.
Oh merde.
Ouais, c'est depuis cette année. Ça me fait un peu
tout fou le camp, hein.
Guinness, c'était sympa, mais les assurances d'essai...
ça doit rapporter, hein, parce qu'ils sont partout.
Ah, ça doit rapporter,
hein.
Ouais. Bah, tous ceux qui ont bu de la Guinness en regardant du rugby, après, ils ont leur assurance d'essai.
Ah, un petit tacle par derrière chez Aviva, allez.
Je voulais rappeler aussi le rôle d'Aviva aujourd'hui dans la société anglaise. C'est quand même la société à qui on a confié le calcul des droits, chômage, de remboursement, de soins, etc. Voilà, je voulais rappeler ça au passage. Entreprise privée à qui on confie le calcul de droits, etc.
Et ben voilà. Droit et devoir.
Ça, c'est de l'exactitude.
Voilà. Et de la promptitude. On va. C'est bon, c'est fini pour le foot britannique.
Parce que ça me déprime, là. Ça me déprime.
Ouais. La prochaine fois, on reviendra sur les Rangers. Hein.
Oui. C'est en préparation. C'est en préparation.
Bon, parfait. Voilà. Comme ça, rendez-vous est pris. Ça sera vers le 30 novembre de mémoire.
On parlera de l'Écosse et de Glasgow.
Eh ben ça me permet. Allez, on va changer de ballon. On va rester sur un sport co qui est au final le petit frère, le grand frère. Je ne sais pas dans quel sens le prendre. On va parler évidemment de rugby sans jingle parce que c'est pas gênant. La H Cup va s'achever pour cette première série de matchs. On va repartir sur le top 14 avec des matchs week-end importants, à savoir pour les places de relégation. Il y a un Mont-de-Marsan Bègles-Bordeaux, malheur au vaincu, surtout s'il est montois. Stade Montois, on en parlait hors micro, pareil, pour avoir lu un article dans le journal. C'est quand même un club qui a une philosophie de jeu et une philosophie de vie qui fait bon soutenir, ne serait-ce que par rapport à ça. Imaginez un peu, c'est le club des frères Boniface. Alors ça, je parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Hein, pour reprendre.
60 même.
c'était avant le stade toulousain, il y a eu les Biterrois, Béziers avec leurs cocottes et leurs ballons portés. Et encore avant ça, il y a eu Mont-de-Marsan et son jeu affriolant, ses ballons qui sifflaient, qui sentaient bon le thym, le romarin, la lavande. Et le magret de canard, évidemment. Ce club qui a toujours aimé faire siffler le cuir veut mourir avec ses convictions, quitte à redescendre. Le président dit « Oui, on va redescendre. » Et alors, à chaque fois qu'on est monté, le club a grandi en termes d'infrastructures, en termes de partenaires, en termes de jeux, en termes de joueurs. Donc, tant pis, on le fera avec nos valeurs, avec notre esprit. Ça passe par leurs jeunes. On parlait de formation et c'est les jeunes. Le Stade Montois organise un tournoi d'ici pendant les vacances. Un tournoi pour les clubs, pour les jeunes des clubs pro, les minimes, Benjamin ou minimes. Et est-ce que vous savez, Gonzalo, tu te tais, est-ce que vous savez comment est attribué le prix au vainqueur de ce tournoi, messieurs?
Absolument pas.
Pas du tout.
Comment on fait gagner sur un tournoi d'habitude
quel
de gamin
d'ailleurs? Au nombre de points.
Ouais, et comment on attribue le nombre de points?
La victoire.
Ouais.
Ça dépend si le fils de l'entraîneur...
et là, c'est au nombre d'essais, peut-être?
Des souvenirs d'enfance.
Et ouais, et là, pour une fois, on va pas compter la victoire. On va pas favoriser les équipes qui vont faire des petits tas, qui vont jouer au pied pour essayer de pas de prendre d'essais. On va encourager les initiatives de jeu et encourager... à l'offensif. Et du coup, on va faire gagner l'équipe qui aura marqué le plus d'essais sur le tournoi. Vainqueur, Tiber, t'as gagné une bière.
Ah, t'es content?
Ah, super, je suis super content. Super. T'as de la Buckler?
Thomas Buckler.
Allez, dans les autres matchs importants, alors, il y a est-ce que Clermont va perdre un jour à la maison? 48 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite à Marcel
si
Michelin.
C'est, si c'est contre Agen, non, ils vont pas perdre.
Alors, ils jouent contre Biarritz, il y a peu de
ouais,
chance.
Ils vont gagner.
Autre match important, le Stade français qui essaye de se refaire un peu la fraise, qui va recevoir un Stade toulousain un peu clopi-clopant.
J'adore tes formules. Se refaire la fraise.
Tu préfères refaire la cerise?
Bah...
Ouais, mais c'est pas de saison.
Se refaire la lavande. La lavande dans les Landes, il n'y en a pas des masses.
Après, et après, je.
La violette, se refaire la violette.
Et après, je vous conseille, parce que je pense que c'est en ce moment ce qui se fait de mieux en termes de proposition de jeu, le match entre Montpellier et Grenoble.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yuyeman? Montpellier-Grenoble?
Pas grand-chose.
Je veux pas te mettre en difficulté. Hein.
Non, mais pourquoi tu m'as réveillé là?
Nord Désir.
Ah, oula.
Ah, il y a des jours où je suis un peu plus véhément.
Plagiat ou pas plagiat? Parce que là, tu peux parler de Montpellier-Grenoble, hein, tu vas pas te faire d'ennemis. Hein.
C'est vrai.
Montpellier, ils sont comment?
Je risquerais de dire n'importe quoi, surtout.
Ils sont comment?
Montpellier doivent être milieu de tableau, on va te dire ça de suite. Rapidement. Montpellier, ils sont quatrième et Grenoble est cinquième, donc c'est un match... au-delà du classement,
ce qui est intéressant pour Montpellier, on peut penser que désormais leur production va être croissante puisque les Argentins sont rentrés. Il y en a quand même 7 ou 8 dans l'effectif, dont 4 ou 5 titulaires chez les Pumas. Et donc a priori, ça ne peut que progresser, sachant d'autant plus qu'ils ont bazardé la Coupe d'Europe avec une équipe B. Voilà, donc a priori, sur le championnat, ça pourrait monter, ou au moins rester quatrième, ce qui est une place très intéressante pour eux.
Montpellier a bazardé la... Excuse-moi, Brandon. Montpellier a bazardé la Coupe d'Europe?
Bien sûr.
Bah, c'est le seul match que j'ai eu ce week-end, et je trouve que...
Non, mais ce week-end, il y avait une petite chance de gagner, donc ils ont mis l'équipe type. Sauf que sur le match avant, ils se sentant en difficulté, ils ont envoyé les remplaçants.
D'accord.
C'est bon, non?
Ouais, bah, en fait, le problème de Montpellier, c'est que... Ils ont construit leur équipe depuis 2 ans avec beaucoup d'Argentins et pour pouvoir faire Coupe d'Europe championnat. Mais sauf qu'il y a eu l'apparition du Four Nations, on rappelle, les Tri-Nations sont passées à 4. Et du coup, ils ont perdu 6 joueurs argentins pour toute la période de pré-saison, pour la première partie de saison. Et du coup, ils se sont retrouvés en problème d'effectif pour faire les deux compétitions. Donc, on a estimé qu'ils n'avaient pas fait l'effort sur la Coupe d'Europe.
Moi, Brandon, ce qui serait sport, c'est que tu invites le Café des Sports au Pré-Margot. C'est quand? Pour le match de la survie.
Ah,
déjà
non. Ouais,
oui, déjà, ouais, c'est un peu tôt,
ça me paraît bon.
Ah oui, non, mais ouais.
Là, c'est la Toussaint, le match de la survie.
C'est pas pour la Toussaint, mais c'est pas loin, c'est pour le 11 novembre. Dimanche 11 novembre, le AC reçoit Hérouville. Hérouville qui a pas gagné un match encore. Evreux en a gagné qu'un, donc c'est hyper important qu'il y ait du monde au Pré-Margot. Et Iman...
Alors, le Couvésien vient régulièrement, ouais, Fred Astaire craint les frimas, toujours pas de Yo-Yo-Man ni de Tiber Le Grand.
Il fait froid.
Oh.
Mais non.
Non, l'ambiance l'emporte sur le climat, sincèrement.
C'est vrai.
Quand t'es à côté de Nono Leratich, Pierre Tombal, la cantonade, au moins tu rigoles. Hein.
Et puis allez, je vous le lance dans le mille. Si vous vous démerdez bien, vous allez voir Imanolette. Vous mettez un mot de passe, on va dire Café des Sports, et vous devriez avoir un verre de vin chaud sur la tournée du patron. Ou sur la tournée du patron, hein, pas celle d'Imanolette. Hein, elle est jeune, elle est étudiante, alors on va pas la saigner. Dans un an, on le fera. Allez, musique. We'll be right back.
Shake me up from the dreams life is only worth when you give it away. When you've done, you've learned there is nothing that's greater, and there is nothing that weighs more. Cause you grow and you grow, and with years you'll know there is only one thing in the end to show. You do it wrong again and again, till it's too late to stop, and then you look into the rise. But you can't stop your lies, and then you're all alone at night. Gift of love, but for reasons unknown, you said I was too far. Felt I can't come closer, then you said it was over. I really tried when I said I did my best. I guess I thought you'd do the rest. We will meet in the corner, cause together we're warmer. And then the feeling starts, and it fills your heart. There's only only worth when you give it away. When you're done, you've learned there is nothing that's greater. You look into the right, but you can't stop your life, and then you're all alone. The feeling starts, and it fills your heart, and in the end there's only love, and in the end there's only love.
Ah bah allez, c'était quoi ?
Evert on the Two Dragons, le titre, In the End, There's Only Love, et en concert le 23 novembre, à l'abordage club ou pas club ?
Club, hein, ça sent le club.
Ça dit quoi ?
Club.
Ah, club.
C'est le club.
Allez, on va
Des Estoniens, précision du Couvésien, qui suit l'affaire de près depuis, depuis six
c'est
mois
bien.
Déjà.
Oh, les pays baltes, ils connaissent.
Ah, alors on va continuer pour ce Money Time avec les actualités toutes récentes. Déjà, du coup, ça va me permettre de revenir à ce premier message que nous avions reçu au Café des Sports, qui est, je trouve, pas mal. Vous connaissez le point commun entre Armstrong et moi ? Oui ou non ?
Bah maintenant, oui.
Maintenant, on le sait.
Voilà.
On va dire non.
On a gagné le même nombre de Tours de France. Voilà. Voilà, faire circuler dans toutes les bonnes oreilles. Et justement, on va pouvoir...
Et vous savez en quoi je suis plus fort qu'Armstrong ?
Apéro ?
Non, j'en ai deux.
Ah !
celle-là, elle est basse.
Il est déjà...
Il y en a une de basse.
C'est la deuxième attaque sous la ceinture de la soirée. Profichet serait là, on ferait pas les ballons.
Gustave Basson, oui, c'était un cycliste qui a eu un courage incroyable. Il était tout jeune, donc il avait 25 ans quand il dénonce en 99 les magouilles d'Armstrong. Et Armstrong avait gagné une étape dans les Alpes la veille, et le lendemain c'était l'Alpe d'Huez, et le peloton avait mission de ne pas courir, en fait, pour que Armstrong puisse se reposer. Il a enfreint cela, et en fait il s'est fait chasser à la fois par Armstrong, mais aussi par sa propre équipe.
Armstrong qui lui a répondu d'ailleurs publiquement.
Ouais, qui lui a répondu et qui l'a pris carrément par le maillot, par l'épaule, et qui l'a arrêté, qui lui a dit qu'il n'avait rien à faire dans le cyclisme professionnel, et qui a eu gain de cause, en fait, parce que...
Voilà.
Qui parlait ?
C'est un Normand. Est-ce que vous avez reconnu sa voix ?
Non.
Il n'est pas connu pour parler. Hein.
Son papa, son fils fait des chansons tristes, et la plus...
De l'herbe.
La chanson la plus affreuse du monde s'appelle Évreux.
Ah, Évreux.
Avec son poisson rouge.
Évreux.
Ah, Évreux. C'est une chanson atroce.
Donc, c'est Monsieur Delerme, Philippe, à France Info, qui parlait et qui avait l'occasion de dire ce qu'il voulait sur le sujet qu'il voulait. Et il a parlé des sportifs qui dénonçaient la triche et le dopage. Et il est revenu sur le cas de Basson. On en avait parlé lundi pendant le café. Des sports. Ah, hier, c'est officiel, mais lundi, on avait eu l'info en direct comme quoi il perdait ses Tours de France. Là, il y a une nouvelle info qui est arrivée par l'UCI. Est-ce que vous l'avez entendu ou pas ?
Et il doit payer. Redonner ses gains.
Il doit.
En plus.
Il doit redonner les gains du Tour de France et autre chose.
C'est-à-dire, c'est 3 millions sur sa fortune de 96 millions ?
C'est ça.
Oui.
Oui, hein.
Ils sont pas très tolérants, hein, ces gens. T'imagines dans le milieu du rock si on retirait des bacs tous les albums des Rolling Stones et des Stooges.
Et de Noir
Désir.
Tout
ça parce qu'ils sont un peu dopés. C'est un peu dégueulasse. Quoi.
Pas un seul disque d'Hendrix avant moi.
C'est triste, je trouve, quand même.
Tous ceux qui boivent du jus d'orange.
D'ailleurs, il y a une photo géniale qui circule en ce moment sur Facebook où tu vois Armstrong avec son maillot jaune en plein col et devant lui, il y a un vélo. Et sur le vélo, il y a Keith Richards.
Oh. Alors, voilà, la dernière info, c'est qu'en plus de ça, pour montrer que le système était vérolé à l'époque, quand même, il n'attribue aucune victoire, aucun coureur de ces années-là.
Bah,
donc, le palmarès
reste aussi drôle.
Voilà. Le palmarès va rester vierge. Les autres histoires de dopage, avant ou depuis, il y a eu un deuxième qui a été déclaré vainqueur. Là, il laisse aucun nom.
On va demander au professeur, parle-nous du Tour de France à venir. 29 cols ?
Tour de France à venir, on est en train de combattre le dopage. Hein, donc on va juste faire 29 cols. Deux fois l'Alpe d'Huez dans la même journée.
Dans la même journée, ouais.
Hein ?
Rigolez bon, pas, rien. C'est vrai.
Il paraît que Fausto Coppi a toutes ses chances.
En montant. Donc moi je pense que le mec pas chargé qui va faire cette étape. Il est parti là, je crois. Hein, il attaque. Et normalement, pour Noël 2013, il a fini le Tour de France. Non, plus sérieusement, moi je dirais juste un truc par rapport à l'affaire Armstrong. C'est très bien qu'il soit fait choper. C'est très bien qu'il rembourse tout, qu'il n'y ait plus de vainqueur. Maintenant, si on veut être clair et net, moi c'est mon point de vue perso. On retire tous les cyclistes et tous leurs vélos. Ceux qui courent actuellement et qui ont couru depuis 30 ans.
Ça à mobilette ?
Non, mais à un moment, c'est de la fausse hypocrisie de dire on en chope un, c'est bien, ça fait le buzz, etc. Ils sont tous chargés.
C'est de la vraie hypocrisie, pas de la fausse.
Plus ou moins, mais ils sont tous chargés.
Pas les porteurs de haut. Hein.
Professeur, on parlait de morale et d'éthique tout à l'heure. Enfin, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ça ne va pas s'arrêter là pour Armstrong. C'est-à-dire qu'a priori, il va être poursuivi pour parjure aux États-Unis, où là, il risque de la prison ferme.
Ça me paraît tout à fait logique. C'est pas parce qu'il est sportif qu'il est au-dessus de toutes ces lois-là.
Ils vont lui refiler le cancer, tu vois.
Non, c'est là qu'on... Enfin, il y a réellement un problème parce que en fait, le centre de Châtenay-Malabry, de dépistage du dopage de Châtenay-Malabry, avait des flacons sanguins d'Armstrong, de sa 4e ou 5e victoire, je ne me souviens plus. Sauf que ses avocats avaient réussi à bloquer son analyse. A priori, ils avaient déjà regardé ce qu'il y avait dedans. C'était explosif. Hein. Tu pouvais faire exploser les tours du World Cup.
Les voitures faisaient 100 km avec 10 millilitres.
Tu pouvais faire exploser les tours du World Trade Center avec. Et, sauf que ses avocats avaient réussi à bloquer l'histoire. Et en fait, effectivement, c'est venu d'un procès aux États-Unis, d'une procédure lancée aux États-Unis où il a été obligé de se coucher, puisque effectivement aux États-Unis, plus grave que de voler, que de tuer, etc., c'est de se parjurer. Marion Jones, l'athlète médaillée olympique, a fait de la tôle. La tôle. Pas parce qu'elle s'est dopée, c'est pas là le fond du problème. Parce qu'elle a dit non, je ne me suis pas dopée.
La main sur la Bible.
L'USADA
ça passe
a
pas.
Réussi à prouver qu'elle s'était dopée. Et elle a fait un an. Un peu
elle avait
un
pris
an.
Trois et elle en a fait un, je crois.
Un an de tôle. Parce qu'elle avait menti au tribunal.
Bah, Clinton.
Clinton n'a pas fait tôle.
Bah, il s'est parjuré quand même.
Ah oui. Mais au bout d'un moment, il était obligé d'avouer.
Ouais. Juste sur Armstrong, le truc, c'est qu'effectivement, bah, voilà, tout le monde est en quelque sorte content. C'est bien que. Déchu de ses titres, etc., et qu'on ait réussi à prouver tout ça, tout ce que tout le monde savait, machin. Après, il y a la gueule de l'emploi, quoi. Enfin, c'est voilà.
Voilà,
c'est,
ce mec n'était pas sympathique, c'est vrai.
Voilà. Non,
s'il
mais,
avait été sympathique,
non, mais voilà. Non, mais
il était peut-être trois. On n'aurait
peut-être pas eu la même réaction.
Système,
non, c'est mais des joueurs, pas enfin, des cyclistes dopés, tout le monde sait qu'il y en avait
on
plein
en
à la même
tous,
époque. Voilà, mais lui, il a tellement accumulé d'antipathie. Ouais, voilà. Ça lui tombe sur la gueule. C'est bien fait pour sa gueule, mais on se concentre un peu là-dessus, quoi.
Je crois que ça va aller plus loin quand même et que ça va ouvrir beaucoup d'autres portes et notamment dans le. Pourquoi pas le milieu du football.
Du rugby.
Le rugby.
Rappelons qu'en Afrique du Sud, il y a des joueurs qui ont 40. Enfin, des anciens joueurs qui ont 40, 45 ans qui ont la maladie de la vache folle.
Ouais, alors c'était. Mais c'était avant Armstrong.
Vanter, Van der Westruisen, etc. Ils sont plusieurs à être champions du monde. Ils ont la maladie de la vache folle.
Bah alors, on va. Du coup, pendant qu'on en est sur ces histoires-là, on va rappeler l'équipe de foot d'Algérie ou du Maroc. Coupe du Monde 86. Sur les 25 joueurs, il y en a 18 qui ont fait des enfants trisomiques. Et ils avaient un médecin qui venait. D'Allemagne de l'Est, je crois, ou je crois pas,
Fresh
je suis
Sport.
Sûr. Hein.
Fresh Sport.
Voilà. Donc voilà, c'est pas. Je pense que c'est pas un hasard.
Football, ouais. Football, il y a un cas connu, hein. La Juventus,
oui.
La Juve.
Ah oui.
Dédé, Zizou et compagnie. Hein.
Ah, ils ont pris des cuisses hein, quand ils y étaient. Ouais. Hein. Les cuisseaux, ils ont gonflé. Hein.
Ils ont perdu les cheveux.
Ben ils étaient avec le docteur Ferrage.
Ils ont pas perdu l'accent, par contre. C'est con, mais.
Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les Américains? Moi, je sais pas trop suivi. Surtout du côté des conservateurs, parce que quand même, Armstrong, c'était une icône parmi les conservateurs. Je sais pas trop ce qu'ils en. J'aimerais bien savoir ce qu'ils en disent.
Je sais pas ce qu'ils en disent, mais en tout cas, ils sont lâchés de toutes parts.
Je pense que le dopage, c'est pas un problème aux États-Unis.
Ah, je sais pas.
C'est le. Non, mais franchement, c'est le parjure avec la main sur la Bible.
Ouais.
Puisqu'aux États-Unis, il est accepté que les joueurs de football américains se dopent, puisque la moyenne d'âge. Des footballeurs américains ne dépassent pas 50 ans.
Ouais.
50 ans.
Il y a eu des
un
cas
peu
de dopage.
Comme les haltérophiles et tout ça. Enfin, les mecs qui
basket, font muscu. Basket NBA, il y a une date, elle est connue. Je ne sais pas, c'est au niveau du 15 novembre, etc. C'est la date à laquelle on fait les contrôles. C'est une fois à l'année, le 15 novembre. Voilà.
Ouais. Et il paraît qu'il y a Armstrong qui se pointait.
On ne cherche pas tout. On ne cherche pas tout. Hein.
Dans le baseball aussi, il y a eu ça. Cas de dopage. Baseball.
Mais voilà, mais là on.
Bah, le mec a fait le record de home run il y a une dizaine d'années, qui avait
tout
appelé,
voilà, ouais.
Il avait été pris, il a été chargé comme un bœuf. Je crois que le bœuf est mort d'ailleurs.
Ah, Franck, non.
En même temps, en France, le dopage dans la pétanque. Mais bon, c'est.
T'as vu ça, toi?
Ah bah c'est aux 4 étoiles, mais. Il y en a quand même.
J'aurais bien
on
savoir...
leur dit rien.
J'aurais bien savoir à quoi il tourne hein, quand t'es allé, parce qu'il tient quelques paires d'heures.
Attiré,
non, Quintet, pardon.
Quintet.
Pardon.
Non, c'est vrai, j'exagère, c'est pas vrai, Quintet, il est vraiment très fort.
Donc toi, tu as fait un tournoi de pétanque récemment?
Ouais.
Et mais... t'as été plombé par la nisette?
Exactement. Il y a eu un délai d'attente entre le troisième et le quatrième match qui a été fatal.
Mais
on a gagné les trois premiers, mais le quatrième, il y a eu une heure et demie d'attente.
T'avais une pas heure eu... et demie de
en jaune. Pleine campagne, il y a un bar. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que d'être au bar?
T'avais pas eu d'entraînement spécifique à ton poste?
Bah non, puis on avait pas de manager, si tu veux.
Ah bah.
Ouais, voilà.
Bah c'est quand même bien dommage.
Il nous fallait un manager de l'Est.
Ah, je crois qu'en manager, il y a soit. Il y a des gens qui ont des expériences avec les jacuzzi, il paraît. Et.
C'est vieux.
Voilà. Ou sinon, il y a Gonzalo qui se propose. Eh ben, je crois qu'on va clore ce Café des Sports. C'était Ah là là, eh oui, on avait annoncé quelqu'un de la municipalité bruissienne, mais il reviendra exprès pour vous sur Raoul. Comme ça, vous l'aurez de visu. Ça sera encore plus sympathique que par question interposée sur le chat. On va clore ce Café des Sports. Merci, messieurs. Est-ce que vous avez un bref mot pour finir ?
Un coup de cœur ?
Ouais, vas-y.
Les expressions du patron. Entre se refaire la fraise et lancer dans le mille, j'aime bien.
Là, je suis pris un peu au dépourvu. Là, non, je sais pas. Si, le match de foot, j'ai regardé un match de foot il y a pas longtemps, là, contre l'Espagne. Bah, ça faisait bien longtemps que j'avais pas regardé un match de foot sans me faire chier.
Allez, vite fait, moi, le coup de gueule, c'est le cyclisme, mais en général.
Moi, j'enchaîne justement. Un cycliste français a dit que justement, il serait réhabilité, que leurs exploits reviendraient sur le devant de la scène.
C'est quand ton émission ?
C'est le 10
10 novembre, vendredi
10 novembre. Un air de vie, le 10 novembre, sur le réchauffement climatique.
Et demain ?
Enfer au paradis.
Oh,
un air de vie, ça s'appelle.
Et ben voilà, merci, au revoir. C'était le Café des
un
Sports.
Un air de bœuf, ce serait pas mal. Non.
C'était le Café des Sports. On ferme et à lundi. Non, c'est fermé. Journée à Love LH avec Willow, We Don't Care Sound System, Dez, Wanking, Noodle. C'était super. Bonne soirée à tous. Au revoir.